Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers à niveau, ce dimanche 2 juin, on reste en votre compagnie jusqu'à 14h, je rappelle l'émission avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Voilà le menu, on a dans les studios un sénateur de Val-de-Marne, Akli Mellouli, qui a été élu en 2023, l'année dernière, et on parlera justement du travail au Sénat, mais pas seulement, aussi de ses relations avec le Portugal. Après, on passe à la RATP. Comment ça se passe pour les travailleurs de la RATP et à quelle sauce on va être mangé? Façon de parler, je m'excuse. Pendant les Jeux Olympiques Paris 2024. On parlera également des aides aux associations de la part du gouvernement portugais. Certaines sont en train de sourire, d'autres sont en train de se plaindre. On verra tout ça à Paris avec Santa Casa et après on ira jusqu'à Nice. Nice, justement, on va voir le consul honoraire du Portugal à Nice pour nous présenter la communauté dans la région. Et après, mes amis, bon, c'est pour le moment, on est encore à l'entrée, c'est le cas de le dire, hors d'œuvre. On va parler d'un bouquin, Porto, recettes et lieux emblématiques chez Mango Édition. Mais Akli Mellouli, avant tout bonjour et merci d'être là ce dimanche avec nous dans les studios.
Bonjour et merci Arthur de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de venir à Radio Alpha et de parler avec la communauté portugaise qui est une communauté très diverse et variée et qui apporte beaucoup de richesse à la France.
Alors ça fait déjà un bon bout de temps que j'étais venu ici. À l'époque vous étiez membre du PS, vous étiez même maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Entre-temps, bon, on arrive aux élections sénatoriales 2023 et la presse locale a dit « le sénateur surpris ». Qui a été surpris avec votre élection?
Ben, je pense que tout le monde a été surpris. Moi, j'étais candidat pour gagner, donc c'est vrai que c'est difficile, c'était compliqué de le faire sans étiquette, et voilà. Mais en tous les cas, j'avais été pour gagner et surprise parce que effectivement, pour eux, c'est des arrangements d'appareil. Et quand vous n'avez pas d'appareil, pour eux, c'est dans les grandes élections, quand c'est les grands électeurs qui votent, ils pensent qu'on peut pas se faire élire. Et ben, je suis heureux d'avoir déjoué les pronostics et puis d'avoir ouvert la boîte ou d'avoir ouvert la porte à d'autres initiatives pour dire aux gens que de toute façon, quand on est engagé, quand on se bat, on y arrive toujours.
Et en même temps, vous avez permis que la gauche conserve 3 sénateurs dans le Val-de-Marne.
Oui, j'ai avec le soutien. Alors, il faut le savoir quand même, quand je dis ça, j'avais le soutien des écologistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, on en parle sur aparté. Effectivement, nous avons réussi justement à protéger 3 sièges. Et c'est ce que j'avais dit lors de la demande que j'ai faite pour l'investiture. J'avais dit que je pouvais élargir la base. Eh bien, j'ai démontré que je n'avais pas que la parole. J'ai joint les actes à la parole. Et donc, ça m'a permis d'être élu.
Alors, la presse locale, on revient à elle, un sénateur franco-algérien. Nos origines, on les défend, on est fiers d'eux, mais pourquoi faire état de ça? À quoi ça rime, un sénateur avec un programme, avec des idées, et pourquoi est-ce que la presse a pris ce...
Alors, je sais pas, est-ce que c'est pour se déculpabiliser, pour dire qu'ils sont ouverts à la diversité dans le pays? Est-ce que c'est pour une forme? Et tu as raison, tu veux le préciser, on est très fiers de nos origines. Et d'ailleurs, nos origines, on en est fiers quand, effectivement, elles sont ouvertes au monde. Et donc, nous, l'important, c'est les valeurs, et tu l'as dit, l'universel, ce que l'on peut partager, la part d'universel que l'on apporte dans chacun de nous. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse au peuple. Et c'est à travers les peuples qu'on s'enrichit. Alors, s'ils l'ont vu sur cet aspect-là, c'est une bonne chose. S'ils l'ont vu sur un autre aspect, c'est à eux de voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est très fragmentée, où on a besoin de qualifier et d'assigner des gens à résidence, comme si les gens ne pouvaient pas être autre chose que ce que leur assignation ou relié toujours à leur origine, etc. Parce que au lieu d'écouter ce que les gens disent et ce que les gens font, les actes valent beaucoup mieux que des paroles.
Et d'ailleurs, on a l'avantage d'avoir une double culture, mais enfin, bon, une ouverture d'esprit. Alors, vous êtes aussi membre du groupe d'amitié France-Portugal au Sénat. Mais Akli Mellouli et le Portugal, ça fait des années qu'il y a ce va-et-vient.
Bien sûr, ça fait des années. Moi, vous savez, je connais bien le Portugal parce que déjà petit, j'ai baigné un peu dedans. Mon oncle, Passonam, était marié. Son épouse était portugaise de Porto. Et puis, au-delà de ça, j'ai grandi avec les gens à Bonneuil-sur-Marne, là, sur Trevin. Donc, en fait, on a toujours été. On n'avait pas on se rendait pas compte de ce qu'on était. On était beaucoup plus amis, on partageait des valeurs. Et puis, j'aime beaucoup le Portugal parce que j'aime beaucoup la culture portugaise. J'aime beaucoup aussi la quiétude qu'il y a au Portugal. J'aime beaucoup aller à Lisbonne, aller voir les matchs du Benfica ou d'autres parce que il n'y a pas de stress. C'est une ville assez apaisée et j'aime beaucoup ce rythme de vie. Et puis j'aime bien le temps qu'on passe autour de la cuisine. Et puis surtout le soir dans les restaurants où il y a du fado, du bon fado, parce que le fado, j'ai découvert cette musique, c'est l'expression un peu de la souffrance des peuples, de la misère. C'est-à-dire que c'est la vie racontée. Et je retrouve en ça mes origines berbères, parce que aussi la chanson berbère, c'est aussi la vie, comme quoi en fait il y a beaucoup plus de choses qui rapprochent les peuples que qui les divisent.
Alors, à propos de valeurs, tout à l'heure, vous avez parlé de valeurs. On vient dans les années 60. 62, l'indépendance de l'Algérie. 62 aussi, dans les colonies portugaises, ceux qui étaient dans les colonies portugaises, des mouvements de libération. Une opposition portugaise qui était en exil, et l'Algérie a été une place forte, justement, de soutien, d'une part, au mouvement de libération des colonies portugaises, et l'imposition portugaise. Il y a même une radio qui émettait en portugais à partir d'Alger.
Oui, il y a même à Béjaïa, sur place Guidon, il y a un hôtel où a résidé le président portugais quand il était en exil pendant 8 ou 9 ans de mémoire. Faudrait voir, il y a une plaque et tout, et c'est marqué, donc tous les gens qui passent à place Guidon à Béjaïa, qu'ils aillent et qu'ils regardent entre les deux cafés, il y a effectivement l'hôtel où était le président portugais quand il était en exil, et il est resté, je crois, 8 ans en exil à Béjaïa, il a vécu là-bas.
Donc, mais pourquoi cette solidarité? Peut-être parce que l'Algérie a dû prendre les armes pour être indépendant.
Je pense que l'Algérie, sur la scène internationale, ce que les gens oublient, après il y a toujours des difficultés, mais sur la scène internationale, c'est rester sur l'autodétermination des peuples. C'est un peu leur colonne vertébrale, comme ceux qui étaient les pères de l'Afrique, comme les Modibo Keïta, etc., les Lumumba, les Frantz Fanon, Sékou Touré, sont des gens qui effectivement se battaient pour l'autodétermination des peuples et pour la dignité des peuples. Et je pense que, et aujourd'hui encore, on va en parler, peut-être que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, notre doctrine doit être, et notre colonne vertébrale doit être, la dignité des peuples et l'autodétermination des peuples. C'est important parce qu'il faut respecter les peuples.
Alors, Algérie, Portugal, quelles sont les relations actuellement? Parce que quand on parle de relations d'Algérie avec l'Europe, bon, on revient toujours au gaz et au pétrole, mais je pense qu'il y a plus que ça.
Oui, alors je sais qu'avec le Portugal, il y a de très bonnes relations. J'ai vu la dernière fois, parce que je suis justement, entre les Japonais, j'ai suivi qu'il y avait une délégation, un gros travail qui était fait avec les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises portugaises qui s'installent, qui travaillent en Algérie, parce qu'elles ont un savoir-faire, qui l'apportent. C'est du gagnant-gagnant. Et puis les relations sont bonnes, puisqu'il n'y a pas cet esprit de néocolonialisme, etc. Il y a un vrai esprit de coopération, c'est ce qu'on peut ressentir. Comme d'ailleurs les relations avec le Portugal et la France aussi sont de très bonnes relations. Bon, aujourd'hui, on va voir ce nouveau gouvernement, mais qui n'a pas de majorité, donc ça va être compliqué. Mais du temps de Costa, il y avait de très bonnes relations et il y avait une volonté du Portugal, vous voyez comme quoi je suis, qui incitait justement, qui prenait l'argent là pour inciter les entreprises portugaises à aller ailleurs pour justement ramener de la richesse et ramener pour la balance commerciale. Mmh. Il y avait une stratégie, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais en tous les cas, je trouvais que cette stratégie était assez innovante et intelligente, qui permettait effectivement un enrichissement et un travail de la coopération avec les autres pays du monde.
Alors, au niveau du Sénat, vous êtes entre autres membre dans les délégations sénatoriales aux Outre-mer. Eh bien, Nouvelle-Calédonie, on voit tout ce qui est en train de se passer depuis des semaines, et tout ça parce qu'on veut changer le corps électoral. Alors, le Sénat, ça a été débattu, la situation en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr, nous, le groupe des écologistes au Sénat, comme les communistes, on a alerté justement sur le risque de revenir sur des choses, parce qu'en réalité, ils se basaient sur le référendum de 2021, qui avait eu lieu, où effectivement les indépendantistes, en raison de la crise Covid et tout, parce que vous savez que c'est très compliqué, c'est très loin, on n'a pas le temps de développer.
C'est à 17 000 kilomètres de Paris.
Et puis le territoire est très étalé, les gens voient qu'effectivement, Nouméa et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de provinces, la brousse qu'on appelle là-bas, et c'est très dur de venir, etc. Donc, en raison du Covid, les indépendantistes n'avaient pas participé au référendum, et le référendum, donc le oui l'avait emporté,
de très peu,
même sans la participation, et c'est là où ils se sont appuyés là-dessus pour dire il faut aller de l'avant. Et donc, le problème du corps électoral, les gens me disent, mais vous pouvez pas dire, c'est exclure des gens. Mais le problème, c'est
exclure des gens qui sont là depuis 10 ans, même plus. Hein,
voilà. Attention. Et donc, le problème, c'est ça, la difficulté. Sauf que, quand vous faites un processus d'autodétermination et que vous arrêtez une liste du corps électoral, vous pouvez pas la changer. C'est-à-dire, c'est les règles du jeu. Soit je comprends bien, nous aussi, on a été un peu gênés sur ça, parce qu'on peut pas exclure des gens de quelque chose. Sauf que quand vous faites un processus électoral et que vous arrêtez une liste des votants, c'est difficile de revenir. Sinon, il faut revoir tout le processus électoral. Ça veut dire qu'il aurait fallu, on leur a dit, arrêtez de vous précipiter, prenez le temps de redialoguer avec les différentes composantes. De toute façon, si on n'arrive pas à mettre d'accord les Caldoches et les Kanaks, on aura un problème sur ce territoire. Donc, les accords de temps de Rocard et tout ça, je pense qu'ils ont voulu passer en force, c'est le cas, ça a été ressenti comme ça, et on voit bien la difficulté. On ne peut pas passer en force, on ne peut rien faire contre l'autodétermination des peuples. Il faut, au contraire, créer le dialogue nécessaire pour avancer.
Oui, mais Monsieur le Président de la République a donné un mois pour trouver un accord. Autrement, il ira... parce que le texte a été approuvé au Sénat, approuvé dans l'Assemblée nationale, donc maintenant, il n'y a plus que... Bon.
Oui, alors le texte a été...
Le Président a donné un mois pour trouver un accord. Et s'il n'y a pas d'accord, le président a dit on avance.
Je pense que la méthode est toujours un peu brutale. Je pense qu'effectivement, il faut se donner le temps du dialogue. On n'est pas un mois près. C'est là où je comprends pas pourquoi cette volonté de précipitation. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'on est autoritaire? Il faut pas confondre autorité et autoritaire. Donc à un moment donné, si on veut avancer, il faut effectivement prendre le temps de la concertation. Il faut apaiser et il faut trouver une sortie. Et ça, depuis le temps que la Nouvelle-Calédonie l'attend, c'est pas d'aujourd'hui, quoi.
Mais il y a l'Organisation des Nations Unies qui a son mot à dire, puisque Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie.
Oui.
Une colonie. Donc, et l'ONU, bon, c'est un territoire à...
C'est le process. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui observent. Après, on dit qu'il y a des ingérences étrangères, mais on y reviendra et tout. Effectivement, il y en a toujours. Mais quand il y a ingérence étrangère, ça veut dire qu'il y a faiblesse aussi de notre État ou faiblesse dans le dispositif. Donc au lieu de bien sûr qu'il faut se protéger des ingérences étrangères, des influences étrangères, mais il faut aussi avoir la volonté de faire de la politique réelle, quoi, avec les peuples, avec les gens. On fait rien contre les peuples, on fait rien contre les gens. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des gens qui n'ont jamais été élus localement, etc., qui ne sont pas en phase avec la société. On ne fait rien contre les gens. Il faut comprendre, aujourd'hui, il y a des vraies difficultés. Et puis, il faut connaître la situation en Nouvelle-Calédonie. Les mines de zinc, qui étaient une richesse, sont en train de couler. Il y a de la précarité, du chômage, enfin voilà. Comment on apporte des réponses à tout ça? C'est ça aussi que les gens attendent.
Alors, Gaza, ça a redémarré parce que, bon, le peuple palestinien, depuis 1948, il y a eu 700 000 Palestiniens qui ont été expulsés de chez eux. Bon, on revient longtemps en arrière.
Il y a 700 000 colons en Cisjordanie.
Etc, etc. Bon, donc le 7 octobre, le Hamas a attaqué directement Israël. Il a fait des massacres. On parle de plus de 1200 morts. À l'époque, on parlait de 250 otages. Donc, bon, Israël a dit on a le droit de riposter. On a vu, on voit ce qui se passe au niveau de Gaza. Tout le monde proteste, en Russie, aux États-Unis, l'OMS, etc., etc. Il y a pratiquement plus rien qui rentre dans le territoire de Gaza. Complètement encerclé. Même le passage par Rafah a été occupé par les troupes israéliennes. Et bon, donc, plus à manger, plus de médicaments, plus d'eau, plus rien du tout. Alors, c'est comment sortir de cette impasse? Parce que, une fois de plus, c'est le peuple palestinien qui est en train d'être sacrifié. Mais il faut dire aussi que tout est parti de l'attaque du Hamas le 7 octobre.
Oui, alors effectivement, on vient souvent. En fait, tout n'est pas parti du 7 octobre, parce que le 7 octobre, on aurait pu l'éviter. Vous savez qu'il y avait un processus de paix. Ceux qui ont tué Yitzhak Rabin sont quand même au pouvoir aujourd'hui. Donc, cela ne veut pas de la paix. qu'il faut quand même le dire, parce que sinon on n'est pas audible si on ne dit pas les réalités. Et donc en fait, les Palestiniens vivent. Moi, j'ai été à Rafah, on a été avec la délégation, donc on a vu, on a parlé avec des gens. Et quand je leur ai dit, vous êtes dans une prison à ciel ouvert, ils m'ont dit non, on n'est pas dans une prison, nous sommes des otages. C'est-à-dire que dans une prison, vous avez une peine. Vous savez quand vous rentrez, quand vous sortez. Eux, ils savent pas quand ils vont sortir, parce qu'en fait, Gaza a été encerclé. Tout ce qui rentrait dans Gaza était déjà filtré avant. C'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment une situation parallèle. Donc, il y a effectivement eu, et ça, on peut le déplorer. Et bien sûr, qu'on est tous outragés, que aucune, nous, on ne fait pas de différence entre les morts. Mais quand même, on peut pas dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, même la CIG a qualifié de risque génocidaire. La CPI va lancer des mandats d'arrêt. Donc, nous, on avait demandé avec les écologistes, et donc, depuis le début, on avait demandé à ce que la CPI plus rentrer. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils ont tout verrouillé, personne ne rentre, vous n'avez aucune info.
Les journalistes...
Les journalistes ont été tués, plus de 150 de vos collègues ont été tués parce qu'ils faisaient leur travail. On empêche les gens de faire leur travail. Donc il y a bien une volonté de vouloir cacher quelque chose.
Mais, Akli Merlouis, on vient, les acrabines, etc., les accords qui ont été signés aux États-Unis, d'ailleurs, on vient tout ça. Mais l'autorité palestinienne, si on revient un petit peu en arrière, Yasser Arafat, l'autorité palestinienne, c'était, disons, le démon pour le gouvernement de l'époque, oui. Israël. Il y a des accusations qui disent, bon, finalement, Israël a, c'est une façon soutenue de Hamas,
oui, ça, c'est,
contre
ça,
l'autorité
ça
palestinienne, et aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique d'il y a 20 ans.
Bien sûr, parce que ce gouvernement messianique est d'extrême droite, il a soutenu le Hamas, il l'a alimenté, d'ailleurs, il y a eu des dossiers qui ont sorti, il y a des éléments, c'est vrai, il l'a financé même, ils ont encouragé le financement, justement pour empêcher ce processus de paix. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il justifie, parce que s'il voulait récupérer les otages, on veut tous récupérer les otages, bombardez pas, si vous bombardez aveuglément, vous allez tuer les otages. Donc en fait, les otages, c'est pratiquement pour peut-être une caution. Donc nous, on veut bien que les gens, effectivement, nous disent oui, les otages, mais c'est sûr, on le demande, mais on peut pas justifier. Nous, on a vu l'horreur. Moi, j'ai vu les photos, j'ai vu Raphaël Pitti, j'ai vu Pascal André sortir, on a vu l'horreur. Il y a aujourd'hui, effectivement, des crimes d'État, des crimes de guerre, il y a, et tout ce qu'ils disent est faux. En fait, ils sont en train d'assassiner la fille, la petite Inde, qui voulait secourir des ambulances. Elles ont été bombardées, elle a été tuée, et elle était pas du Hamas, quand même. Et donc, aujourd'hui, on est en train de nous dire, le but du jeu, c'est effectivement de déshumaniser les Palestiniens, de nous faire croire. C'est pour ça que moi j'aime bien quand on dit les femmes et les enfants, les femmes et les enfants, les hommes, parce que les hommes, les civils, c'est pas des gens du Hamas, parce qu'on voudrait faire croire que les gens, après on veut nous faire croire que les enfants, ils sont élevés dans la haine de ceci, mais il n'y a pas besoin de les élever puisque la haine, c'est eux qui la produisent. Donc à un moment donné, il faut tuer les enfants aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment une déshumanisation et une stratégie de ne pas vouloir de paix. Parce que si on voulait la paix, on fait deux États et après on avance. C'est ça le but du jeu.
Alors récemment, il y a trois pays, mais il y a un quatrième qui va s'associer, qui a reconnu l'État palestinien. Ma dernière question par rapport à la situation à Gaza, mais pas seulement en Cisjordanie, aussi il y a des morts, il y a des bombardements, etc., etc. Mais quel pays arabe a défendu et défend l'indépendance de la Palestine? Parce que si on regarde les pays arabes, je m'excuse, hein, ils ne font pas mieux que les pays dits occidentaux.
Alors, il y a un pays qui le fait dans les pays, enfin, entre guillemets, d'Arabes, c'est pas parce qu'ils sont, l'Algérie, puisque c'est elle qui porte la plupart des résolutions à l'ONU, le fait depuis toujours, puisqu'elle reconnaît la Palestine depuis très longtemps, il y a une ambassade de Palestine à Alger. Et voilà. Donc, il y a quelques-uns à des degrés moindres, mais c'est vrai que, aujourd'hui, et tu as raison, Arturo, je pense qu'effectivement, les pays, et d'ailleurs, le monde entier, l'Occident, si on peut appeler ça, les pays arabes, la zone globale, à part l'Afrique du Sud, ne sont pas à la hauteur des enjeux, et l'histoire jugera leur silence coupable. Je pense que tu as raison, et ça montre bien que c'est pas une guerre de religion, ou c'est pas une guerre de civilisation, c'est bien une guerre d'intérêts, et donc si leurs intérêts ne convergent pas, eh bien ils ont du mal à soutenir.
Enfin, comme disait Yasser Arafat, voulait une Palestine laïque et démocratique. Peut-être revenir l'essentiel.
Ah oui, parce qu'ils ont des chrétiens, ils ont beaucoup de chrétiens chez les Palestiniens. Il faut faire attention, c'est ce que voulait Arafat, c'est pas des religieux. C'est là où le paradoxe du Hamas est révélé, quoi.
Oui, Bethléem, c'est d'un territoire palestinien.
Tout à fait. Dire.
Alors, Akli Merlouis, pour terminer, il nous reste encore 2-3 petites minutes. Vous avez fait un certain nombre de propositions de loi au Sénat. J'ai choisi une, proposition de loi visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'alimentation. Aujourd'hui, une grande précarité, etc., etc. Donc, ça fait partie des... Bien sûr. Des biens publics, l'alimentation, comme l'eau, comme le logement,
c'est ça,
l'éducation, la santé, etc.
Mais on le voit bien, aujourd'hui, il y a des gens qui font de la prison, qui sont condamnés parce qu'ils ont été volés pour nourrir leurs enfants. On vole de l'alimentation pour nourrir. Avant, vous voulez des produits de luxe, c'est votre chose, mais là, aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui vont voler pour se nourrir, pour nourrir leur famille. On voit bien les gens, il y a des gens quand même qui sont, le seuil de pauvreté est en train d'augmenter. Et, la taxe sur les produits de première nécessité, il va falloir qu'on réfléchisse, justement, comment on peut alimenter. Et d'ailleurs, une alimentation aussi saine. C'est aussi ça, le but. C'est ce quand on se bat, quand on nous dit aux normes européennes et tout ça, où les écologistes sur l'Europe se battent, comme intéressant, le baril tout ça, là aussi porté, où les gens voudraient enlever des normes. Les normes, c'est important pour l'alimentation saine. Et vous le savez, Arturo, si vous n'avez pas une alimentation saine, vous développez des maladies, vous développez, et on voit bien l'obésité, tout ça, et c'est aussi révélateur de notre alimentation, des habitudes alimentaires, et puis de l'accès à l'alimentation saine et de l'alimentation de qualité. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui ne font qu'un repas par jour, et ça, on ne peut pas l'accepter. Une grande démocratie, soi-disant, ne peut pas accepter que des gens ne puissent pas manger à leur faim.
Oui, il y a l'histoire pour beaucoup de gens. La fin du mois, c'est au début du mois.
C'est ça.
Alors, mais justement, maintenant, oui, bon, une petite, bon, je rajoute une question. Une nouvelle réforme du chômage. Donc, quand on parle de précarité, là, ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont passer au RSA, tout simplement.
Ben, là, vous allez créer des travailleurs pauvres. En fait, la réforme du chômage, elle est, on le voit en Allemagne. Quand vous obligez les gens à prendre un emploi n'importe lequel, s'ils prennent un emploi à 600, 700 euros, la question est toujours pareille, c'est comme les agriculteurs, c'est la question de la fiche de paie, c'est la question de vivre dignement de son travail. On ne peut pas, quelqu'un qui ne vit pas de son travail, donc on va imposer la précarité, c'est-à-dire qu'on va tirer vers les gens vers le bas, c'est-à-dire que les gens vont avoir un travail qui ne leur permettra pas de vivre. C'est ça le scandale. C'est-à-dire qu'on est, on rajoute de la précarité à la précarité, on s'attaque toujours aux mêmes, toujours à ceux qui les décident, toujours ceux qui n'ont pas, c'est toujours à eux qu'on s'attaque. Il faut qu'on arrête de s'attaquer. C'est pareil pour l'habitation. Il faut qu'on arrête de s'attaquer aux pauvres. Il faut qu'on arrête de s'attaquer aux précaires. Au contraire, qu'on leur redonne des moyens de leur dignité. Et les moyens de la dignité, ça passe aussi par un travail, mais un travail rémunéré à sa juste valeur qui leur permet de vivre. Je crois que vous allez recevoir quelqu'un d'assiette juste après. Le salaire aujourd'hui est calculé. Vous savez, si vous êtes en dessous de 1800 euros, vous avez du mal à vivre dans ce pays. 1800 euros, ça vous permet de vivre. Pas correctement, mais de vivre, quoi, d'essayer de la survie. Si vous êtes en dessous, le SMIC, il est à 1002, 1003, donc c'est, vous voyez bien qu'on a encore des progrès à faire pour vivre dignement de son travail dans ce pays. Il y a quand même des travailleurs qui vivent dans leur voiture, qui vivent dans la rue, c'est pas admissible.
De toute façon, avec un SMIC, personne n'arrive à louer quoi que ce soit, même pas, ne parlons pas d'une chambre de bonne à Paris, que ça coûte dans les 800, 900 euros, mais impossible de se loger quand on travaille, parce qu'il y a des travailleurs qui vivent dans la misère.
Bien sûr, et puis comme ils sont renvoyés, ils ne peuvent pas se loger à Paris, ils sont renvoyés en troisième couronne, donc ils ont des frais de transport impossibles, et souvent c'est les gens que les emplois les plus précaires qui doivent faire 2 heures, de 4 heures du matin à 6 heures, puis après qui rentrent au bout du monde, et qui le font après de 22 heures à minuit, et c'est au même qu'on va dire, mais vos enfants, vous avez le temps de vous en occuper, etc. Donc vous voyez, il y a tout un effet pervers qui tend aussi à accentuer et à faire porter la responsabilité sur les précaires et à culpabiliser, à stigmatiser les plus précaires.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, parlons des transports tout à l'heure avec Nuno Martins, on aura l'occasion de parler avec ça. Des travaux partout, à partir d'une certaine heure, plus de train, il faut se balader en bus, je ne sais pas quelle heure. Alors, je l'appelle... chaleureusement les mamas africaines, quand elles prennent le premier train le matin, 4h30, 4h45, etc., etc., quand il n'y a plus de train, comment on fait? C'est toujours ceux qui étaient en première ligne, maintenant, se retrouvent relégués, je ne sais pas où. Mais enfin, Akli Meloli, merci, je rappelle, vous êtes sénateur écologiste du Val-de-Marne. Alors, une dernière question, en forme d'appel, le 9 dimanche prochain, on vote pour les européennes, donc voter c'est un droit, mais c'est avant tout un droit, non ? Un devoir.
Bien sûr, il faut que tout le monde se déplace pour aller voter. Alors moi, je serais très heureux qu'ils votent pour Marie Toussaint, qui est l'autre candidate, qui était une bonne candidate. Mais en tous les cas, déjà, je vais les appeler à tous se mobiliser à voter, parce que l'important, c'est de voter. Vous savez, quand on vote pas, on suit le vote majoritaire, et c'est comme ça qu'on donne une majorité à des gens comme qu'on ne voudrait pas voir arriver, qui prônent la haine, la xénophobie et le rejet de l'autre.
C'est vrai, celui qui ne vote pas ne compte pas. Et d'ailleurs, au propos de vote aux européennes, ça concerne la communauté portugaise, c'est un vote présentiel au consulat, et ça sera le samedi et le dimanche, donc le 8 et le 9. Merci à Climel Lully.
Merci.
À très bientôt.
À très bientôt, et peut-être à Lisbonne, Arturo.
Ah, ben on verra bien. Mais chez Sporting. Merci.
Qui est le meilleur club formateur de jeunes.
Ah, c'est vrai. Et après, il les vend. Bon, c'est une autre affaire, ça. Et nous, on revient dans quelques instants. Et revient en direct, passage à niveau ce dimanche 2 juin. Et on va parler de nous. De nous, de vous, ça veut dire des transports. Avec nous, Nuno Martins, délégué central CGT à la RATP. Nuno Martins, bonjour et merci d'être là.
Merci à vous, Arthur, de l'invitation. Mmh. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à ma ville de Noisy-le-Grand et à toute la communauté portugaise qui est nombreuse dans la ville.
Alors, je voudrais aussi saluer vos enfants qui sont là avec nous. Les sorties le dimanche, surtout que c'est l'heure à manger. Bon, mais enfin. Alors, vous êtes dans le secteur de maintenance, plus exactement, vous êtes même secrétaire général, je suppose, oui. Du GISO CGTP et CGTRATP. Alors, commençons brièvement, ça veut dire quoi la maintenance?
Alors, la maintenance, en fait, c'est une grande population au niveau de la RATP, hein, pour faire un peu des éléments de contexte. 45 000 agents à la RATP, il y a plus de 6 000 agents à la maintenance, à peu près 2800 qui travaillent tous les soirs, et pour beaucoup en 3-8, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on répare, moi, comme je le dis souvent, du sol au plafond, dans les gares et dans les stations, on fait vraiment tout, du génie civil, les escaliers mécaniques, les ascenseurs, mais aussi les bus, les tramways, les métros et les RER.
Et d'ailleurs, nous, on a un centre dépôt là, à Créteil, justement, à côté de Carrefour Pompadour. Alors, quand on parle de maintenance, on parle de matériel roulant. Alors, à un moment donné, on a dit qu'il n'y avait pas assez d'investissement. Alors, Île-de-France Mobilité, n'est-ce pas? Avant, c'était le STIF. Bon, passons, il est meilleur. Et qui dirige ça? C'est la présidente régionale de Île-de-France, Madame Pécresse. Alors, la RATP est dépendante aussi des financements de la région. Et vous, comme syndicaliste et comme travailleur de la RATP, comment est-ce que vous apercevez les choses? Est-ce qu'il y a des problèmes?
Alors, déjà, il y a une grande évolution, hein. Effectivement, avant, on était géré par la région avec des financements d'État. Progressivement, il y a un désengagement de l'État vers les régions. Aujourd'hui, c'est Madame Pécresse donc, qui est présidente de la région, qui gère la RATP, qui gère les investissements. Je pense que si on regarde un peu les journaux, on voit comment elle gère cette très très grosse entreprise qui, pour 90%, c'est uniquement les transports. Et après, il y a les collèges, enfin les lycées, pardon.
Les lycées, ouais.
Voilà, et on voit dans quel état ils sont, entre autres, dans le 93. Les choix en fait de Madame Pécresse, ils sont très 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 orientés. L'objectif, c'est et je pense qu'on peut en parler après, c'est l'ouverture à la concurrence. Et je fais du coup un petit clin d'œil, une petite annonce. On risque très certainement d'aller les voir très bientôt, parce que l'ouverture à la concurrence, c'est du perdant perdant. Alors en intro, Arthur, tu le disais, notre quotidien, le quotidien des mainteneurs, des agents de la RATP, c'est par déclinaison le quotidien des voyageurs et des usagers. Quand il y a, je suis encore la semaine dernière, je suis allé à Joinville, justement, on en parlait avant l'ouverture de l'interview, il y a des problèmes de pièces. Et en fait, quand il y a des problèmes de pièces, il y a des problèmes de régularité dans les trains, dans les bus, dans les tramways. Et des petites choses qui ont l'air anodines, qui nous touchent pas forcément, ont des conséquences au quotidien, avec des retards après-derrière, avec plein de problématiques. Sur les investissements, effectivement, il y en a de moins en moins. Par contre, parallèlement, notre carte Navigo n'a cessé d'augmenter. On l'oublie déjà, mais avant, elle était aux alentours de 70 euros. On est déjà maintenant à 84 euros.
85 euros, voilà. 70 centimes.
Oui, j'inverse les dizaines, mais effectivement, ça n'arrête pas d'augmenter et l'investissement, il n'est pas là. Alors, la RATP, elle investit beaucoup. Hein. Elle investit en milliards, de tête, un milliard et quelques par an. Hein, sur un budget de 5, donc c'est pas négligeable, et je pense qu'après on en parlera, il y a un renouvellement de matériel qui arrive au fur et à mesure, mais voilà.
Non mais là ça me fait rire, dans la mesure, je pense aux bus Bolloré, parce qu'il y en a plusieurs qui ont brûlé carrément, il y a un problème avec les batteries, ces bus.
Alors, il y a un
problème. C'est pas la batterie, c'est quoi?
Alors, il y a la batterie, il y a les condensateurs, il y a, à mon avis, une mauvaise conception, réalisation qui a été faite sur ces bus, qui sont plutôt quand même de bonnes conceptions, hein, parce qu'on avait, pour la RATP, des marchés, pas mal de marchés pour ces bus, hein. Il y a des marchés chinois, BID, il y a Mann, enfin il y a plein, mais vraiment sur tout ce qui était batterie, alors c'est ça qui est drôle, Bolloré était vraiment en avance, et c'est le défaut de batterie et de condensateur qui a fait que les bus sont brûlés.
Et Rosetta, il y a 200 et quelques bus qui sont immobilisés.
149 qui avaient été immobilisés, là ils sont en train de revenir, et depuis ils ont continué en fabriquer, il y en a pas loin de 230 qui vont revenir, oui.
Alors, parlons emploi.
Oui.
À mon nom est mot d'ordre de Mme Valérie Pécresse. De toute façon, elle est invitée à venir ici, comme elle est déjà venue. Bon, mais je ne manquerai pas de lui poser la question. À mon nom est ordre au PDG de la RATP, et même avec Jean Castex. Hors de question d'avoir des nouveaux travailleurs. À savoir, on n'embauche plus, etc., etc. Bon, il y a la Covid, il y a tout ça. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il manque des milliers de chauffeurs de bus, machinistes pour les métros, etc. Maintenant, je pense que ça doit être exactement le même problème. Alors, on a stoppé les embauches. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il manque des milliers de bras.
Tout à fait. En fait, il y a, pour qu'on ait quand même aussi des ordres de grandeur, 15 000 machinistes, donc personnes qui conduisent les bus, et il en manque aujourd'hui 1 500. Enfin, pardon, je vais être plus précis, il en manquait en 2023 1 500 et aujourd'hui il en manque encore 1 000. Il y a les JO qui arrivent, c'est une population qui est pour moi très très mal payée. Tout à l'heure il y a le sénateur qui est passé, qui parlait qu'avec 1 800 euros on ne peut pas vivre. Bah, c'est le salaire d'embauche d'un machiniste à la RATP, une grande entreprise comme la RATP.
Brut ou net?
Brut.
Brut.
Ah oui, brut.
Donc ça descend à 1 400.
Tout à fait. Après, il y a des mesures de temps supplémentaire, de travail sur repos, qui fait qu'ils arrivent un peu à mettre du beurre dans les épinards.
Et on cotise pour la retraite avec ça ou pas?
Pas surtout.
Voilà, pas surtout. C'est ça le vieux problème.
Le vieux problème, il est là. Et pour faire travailler plus, et ça c'est une directive d'IDFM de Mme Pécresse, et je dirais des directives européennes, parce qu'en fait, il y a un historique sur l'ouverture à la concurrence qui date de
2002. Rien n'oblige privatiser les transports en commun, ni l'EDF, ni SNCF, etc. Rien. L'Europe n'a pas son mot à dire là-dessus, je m'excuse.
Tout à fait, mais j'allais le dire. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes plus syndicaliste que moi, en tout cas, à l'antenne.
Non. Écoutez, c'est mon boulot d'être au courant des choses.
Non, mais effectivement, il y avait d'autres solutions. Mme Pécresse a fait un autre choix. Au lieu de dire, voilà, la RATP, vous cantonnez à travailler en Île-de-France et on travaille sur une régie vraiment régionale, elle a dit non, la RATP continue à aller en dehors de l'Île-de-France, elle va chercher des marchés, voire envoyer du matériel payé par l'Île-de-France dans un premier temps à l'étranger. Hein. Il y a eu l'Italie, il y a l'Angleterre, il y a eu le Brésil, il y a eu l'Égypte, enfin, on est vraiment, vraiment partout. Il y a à peu près 15 000 personnes hein, qui travaillent pour la RATP à l'étranger. Effectivement, il y a d'autres choix qui ont été faits. Nous, syndicalement, on porte autre chose. L'objectif, c'est d'offrir un service public de qualité avec une régularité au moindre coût. Et effectivement, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces critères-là.
Alors, sans oublier le statut, parce que les nouveaux fonctionnaires, entre guillemets, de la RATP n'ont plus le même statut. Rapidement, il y a beaucoup de changements entre le statut ancien et...
Alors, il y a vraiment beaucoup de statuts, comme je parlais tout à l'heure, avec un salaire d'embauche à 1 800 euros pour les machinistes et les mainteneurs. Même des fois, c'est plus bas. Hein. L'année dernière, on était à 6 euros au-dessus du SMIC pour les RATP. Il y a, et vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure avec le sénateur, un coût de l'immobilier et du logement en Île-de-France qui fait que normalement, on devrait vraiment gagner plus en Île-de-France. Ou alors, les prix des loyers devraient être encadrés. Mais je dirais, là, c'est plutôt des affaires politiques. Même si j'ai un engagement, je pense que voilà, c'était des marqueurs qu'il fallait faire. En termes d'avantages, alors, moi, j'aime pas ce mot-là. Je préfère dire plutôt compensation. Parce que quand on gagne pas plus qu'à
l'époque. J'appellerais ça des droits acquis.
Bon, aussi. Mais là, pareil, c'est. Je dirais, dans la mentalité et dans la perception de chacun. Voilà, moi je préfère parler de compensation parce qu'il y a en fait des pénibilités, comme je disais tout à l'heure, du travail décalé en 3-8, qui font que comme on gagne pas assez, ou en tout cas pas suffisamment pour compenser, on avait des départs anticipés. Et il y a donc effectivement, je dirais, 3 types d'agents, enfin même 4. Celui qui est embauché après 35 ans, donc qui rentre pas du tout dans les statuts. Celui qui est rentré avant 2009, qui a la possibilité de partir en fonction de ses contraintes plus tôt. Alors, c'est 52 progressivement vers 54 ans. Et depuis donc 2009, il y a des bonifications qu'ils n'ont plus du tout. Donc on voit que depuis 2009, il y a une attractivité de l'entreprise qui est plus à la hauteur. Et là maintenant, depuis le 1er septembre 2023, c'est le régime général. Et c'est là où on voit justement qu'il y a une forte, enfin c'est très très complexe de venir à la RATP. Les salaires sont quasiment identiques en fonction des métiers. Les contraintes sont vachement plus supérieures. Pour vous dire, moi dans mon métier, on fait minimum un week-end par mois. Et par exemple, les machinistes arrivent à faire un week-end non travaillé par mois. Eux, c'est l'inverse. En fait, ils ont des repos tournants. Donc forcément, quand il n'y a pas les compensations qui vont avec et que le salaire est le même partout, avec le prix du logement, bah, on se retrouve dans cette situation-là où on est en pénurie, on a du mal à embaucher, à rendre attractif l'entreprise.
Mais apparemment, au point de vue de la carrière des agents de maintenance, vous avez obtenu un accord qui était positif pour les... Bon, vous dites oui et non avec la tête, mais, vous l'avez signé. Hein.
Oui, tout à fait, on l'a signé. Alors, c'est un accord mi-figue, mi-raisin, comme on l'a dit. Il y avait 1000 raisons de le signer et 1000 de ne pas le signer. Il y a des perspectives plus avantageuses, en fait, sur les carrières, avec des passages plus courts. Néanmoins, il y a une augmentation, et c'est le gros point de crispation que j'ai eu avec l'ensemble des copains de la maintenance, sur une individualisation, en fait, des salaires. Et nous, on aime qu'il y ait des repères collectifs, parce que quand on se bat à plusieurs pour augmenter nos salaires, c'est plus simple que quand il y a une part d'individualité où on regarde, où on cache même des fois la fiche de paye. Et quand on est dans une entreprise, franchement, que je trouve belle comme la RATP, qui offre un service, alors pas encore suffisant, mais quand même de qualité, enfin, en fonction des lignes et des heures, mais voilà, je pense que c'est une fierté tout ça. Et voilà, ni figue ni raisin, cet accord.
Bon, et quand on en parle de salaire au mérite pour les fonctionnaires de l'État et pas seulement, bon, ça donne à réfléchir. Et tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu des bus, de banlieue, par exemple ici, donc surtout dans le 91 et pas seulement, la RATP y va plus. Donc c'est des entreprises privées, entre guillemets, bien que ce soit des filiales de la SNCF, on va pas rentrer là-dedans. Entre-temps, il y a des choses qui sont les rails, ça a été repoussé, la privatisation d'un certain nombre de lignes de bus. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous, Jean Castex, vous, syndicalistes, vous avez eu des réunions avec eux? Parce qu'apparemment, c'est la région qui pilote tout ça.
Enfin, on a des réunions régulières. Même moi, en tant que syndicaliste, avec les ministères et je dirais les organismes de tutelle. Donc, c'est des lois qui sont arrivées progressivement. On en parlait tout à l'heure. La RATP a décidé d'aller à l'extérieur. Il y a des lois, en fait, qui ont favorisé, du coup, à qu'il y ait des boîtes privées qui viennent chez nous. Mais pareil, enfin, moi, je rentre quand même dans les détails. Keolis, c'est une filiale de la SNCF. Transdev, c'est une filiale de la CDC, donc la dépôt et consignation.
Dépôt et consignation.
Tout à fait. Donc, 100% État. Alors, forcément, dans ces filiales, il n'y a pas les mêmes compensations ou avantages ou droits acquis qu'à la RATP. Néanmoins, les contraintes sont les mêmes. Et on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu sur le réseau Optile, donc la Grande Couronne, ses premières privatisations. Et donc, la loi qui est tombée, qui organise ça, alors qui découle de plusieurs, hein. Il y a eu le règlement OSP, enfin voilà, déclinaison, mais celle qui est spécifique à la France, c'est la loi HOM, donc la loi d'orientation et des mobilités, qui a ensuite été déclinée, donc elle date de 2019, je ne dis pas de bêtises, elle a été déclinée avec un projet de loi, là pour le coup soutenu par la droite, très certainement, mais c'est mon avis, très proche de Madame Pécresse, qui était ciblée sur la RATP. Et l'objectif, c'était, du coup, pour les bus, où l'ouverture à la concurrence devait être effective au 1er janvier 2025, de l'étaler. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Les Jeux Olympiques, mais on va peut-être en revenir après. Je pense aussi, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Hein, on partait à l'époque de 27 lots. Aujourd'hui, on a 12 plus 1 qui va être créé. Et c'est déjà très très complexe, parce qu'il y a des lignes qui dépendent de plusieurs dépôts. Hein. Même ici, à Créteil, il y a des lignes qui dépendent de sa mort.
Et il y a le statut du personnel, parce qu'il y a du personnel qui va changer de...
Tout à fait, il y a le transfert du personnel. Personnes. Pour vous dire, rien que cette loi, pour le personnel de la RATP, il y a 8 décrets différents qui doivent tomber. Ils devaient être tombés en avril. Je pense que c'est très très complexe pour qu'ils tombent. Et on voit que voilà, les priorités, c'est plutôt les JO qui doivent fonctionner vite. Mais juste après, en élément de contexte, donc 2025, ça a été reprorogé, enfin en tout cas prolongé, par cette PPL qui a eu lieu en fin d'année, là, 2023. C'est du coup morcelé, ça sera plus 2025, ça sera entre 2025 et 2027. Bizarrement, 2027, sachant que les régionales auront lieu en 2028. Et pour le tramway, c'est 2029, ça c'est inchangé. Et le métro et LER, c'est 2039. Donc en fait, c'est qu'un premier pas. Et on voit déjà là où des entreprises, des fois les mêmes, je vois là, aux alentours de Melun, l'entreprise reprend, elle doit faire le même service, et souvent, elle fait à moins cher. Bah, la variable d'ajustement, elle est toujours la même, c'est les salaires, donc c'est les primes qui sautent en premier.
Ouais, c'est les salaires, mais c'est aussi l'intervalle entre chaque bus, j'en pensais les meilleurs, parce qu'on est bien content à 4h30 du matin d'avoir le bus qui passe, mais le chauffeur, le machiniste, il s'est levé à quelle heure?
Ah, c'est sûr, il se lève très tôt.
Bon, donc il faut qu'il ait une voiture.
Tout à fait, et bon, le prix d'essence.
On va continuer comme ça. Non, Martins, oui. Finalement, on est qui hein? Quoi? Je suis un client, je suis un usager. Un client, je paye un service. Usager, hein, c'est un service public. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et au fur et à mesure, il n'y a pas qu'un problème de sémantique. Hein. Mm. Ça suppose quelque chose.
Oui, oui.
Donc,
oui.
Pour vous, qui travaillez à la RATP, bon, il doit y avoir un sacré changement aussi.
Il y a un changement. Et puis, nous, syndicalement, on porte à qu'il y ait des usagers et des voyageurs. Nous, on veut aussi ce rapport, je dirais, aux personnes, parce qu'on est là. Enfin, moi, je suis mainteneur. Quand je répare un escalier mécanique, il y a des personnes qui viennent me voir pour les orienter, pour leur simplifier le trajet. Je le fais. Moi, je suis pas payé pour ça. Enfin, il y a une attache au service public. Ouais. Tout à l'heure, Monsieur Mellouli, le sénateur, en a parlé aussi. Enfin voilà, le service public a un sens. Et moi, pour moi, le transport en fait partie, l'éducation, enfin
la santé,
tout à fait, et même l'alimentaire. Hein, enfin,
oui, l'eau, c'est un bien essentiel.
Essentiel pour tous. Du coup, j'ai un peu
Je disais justement, t'as usager, client.
Oui, alors pour voilà, usager, voyageur. La notion de client, c'est pour vous dire, même dans notre fonctionnement interne, et c'est venu avec Madame Borde quand elle était présidente. On a commencé à parler de notion client en interne. Par exemple, moi, je suis sur le département de maintenance et des espaces. Quand je vais faire un entretien sur un escalier mécanique, je travaille pour un client qui est aussi un département de la RATP et je lui fournis une prestation et il y a des versements entre départements en interne. Nous, ça ne nous va pas. Enfin, moi, c'est des collègues. On est là pour rendre le meilleur service aux usagers et aux voyageurs. Et on se bat pour ça. Et on en parlait tout à l'heure, hein, la notion salariale. Quand il y a quelqu'un qui est heureux de venir au travail et qui est bien payé, eh ben, il donne le meilleur de lui-même. Voilà.
Alors, Don Martins, je passe à l'expression, est un petit peu vulgaire, mais enfin, à quelle sauce on va être mangé, nous, utilisateurs ou usagers des transports publics, et vous, travailleurs de la RATP, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, il y a déjà des stations de métro qui sont fermées. Je ne sais pas, pour faire la liste des stations qui vont être fermées, bon, c'est bien pour la marche, mais faut-il encore avoir un QR code? D'avoir, en plus, quand on demande un QR code, ça passe par le ministère de l'Intérieur, vérifier qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà pour nous,
alors pour
usager des transports.
Effectivement, déjà ce qu'il faut avoir en compte, c'est que ça ne va pas être alors un mois et demi, parce que les JO ont lieu sur deux fois 15 jours, mais c'est plutôt un mois et demi classique. On nous annonce déjà en interne, mais pas que, hein, je pense que vous l'avez dû le voir dans les journaux, plus 15 millions de voyageurs en plus.
Déjà, je prends la ligne 13, c'est peut-être celle que tout le monde s'accroche à la ligne 13, mais il y en a d'autres qui sont parées.
Oui, il y a plein d'autres. Il y a donc deux stations qui sont bientôt fermées. Il me semble au mois de juin, c'est la station Concorde et Tuileries, parce qu'il va y avoir sur la place de la Concorde.
Ça y est, depuis hier, même pour les piétons.
Voilà, et au total, ça sera une trentaine, dont une dizaine sur une journée spécifique. De mémoire, je crois que c'est le 28 juillet. Et en fait, après, ça tourne. Il y en a qui vont rouvrir, fermer. C'est vrai que ça va être un chemin du combattant. Mmh. Parce que peut-être la station, le lundi, est ouverte. Et puis le mardi, si on va travailler, elle est fermée. Et je pense qu'on n'a pas mesuré ou travaillé la chose assez en amont. Enfin, on le voit au niveau interne. Là, on commence à être bien. Mais je trouve que c'est déjà court. pour ce qui reste à faire. On a plein de matériel qu'on a fait un peu en prévention là aujourd'hui pour que sur juillet et août il n'y ait pas de soucis. On l'a dit, il y a un manque de personnel, donc forcément à un moment donné ça va se voir. Les QR codes, effectivement, nous c'est simple, des demandes spécifiques pour... alors c'est simple, sur les JO, il y a 19 000 agents de la RATP qui y travaillent. Je vous ai dit sur 45 000 qui travaillent vraiment spécifiquement pour les JO. On est à peu près 60% de présentéisme sur la période, alors qu'habituellement on est plutôt à 40-45%.
Ouais, il faut dire que ça tombe pendant la période de vacances. Donc pour vous, vacances...
Tout à fait. C'est fini.
On verra après.
Voilà. Certains ont des compensations à la hauteur, d'autres pas. Je pense que si vous suivez les journaux, vous avez dû le voir. Mmh. Mais au-delà, voilà, effectivement, du flicage qui est continuel. Alors, ça me rappelle une vieille période qui, pour moi, était pas la meilleure, où on a été enfermé chez nous, de la période du Covid, où on devait faire nous-mêmes des attestations pour pouvoir sortir. Là, effectivement, des QR codes. Moi, je fais partie, justement, des deux personnes pour la CGT qui vont suivre cet événement. On va avoir une enquête de moralité.
Ah ouais,
alors, je sais pas si ça va être sur les 19 000 agents.
Mais en tout cas, tout le monde passe. Parce qu'on a vu, par exemple, par rapport aux bénévoles, pour les Jeux Olympiques, il y a déjà plusieurs centaines qui ont été éloignées. Mmh. Ce que soi-disant, qui posait des problèmes. Parce qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. On va voir avec vous.
Casier vierge, ou par exemple, je ne sais pas, j'ai fait une manifestation, j'ai été bousculé par un agent des forces de l'ordre, j'ai contesté, ils m'ont attrapé. Voilà, j'ai une main courante, j'ai un écrit sur mon casier, et effectivement, je pourrais pas avoir ce QR code.
Vous me direz des nouvelles après.
Sans problème, pourrait m'appeler tout début juillet. Je pense que l'enquête de moralité sur ma personne sera faite. Mais oui, ça va tendre. Et le manque d'effectifs et le manque de QR code, ça va gêner sur les transports en commun. Ouais. Moi, je conseille, mais il n'y a pas que moi qui conseille, que ceux qui peuvent s'organisent et se mettent en télétravail ou qui partent mieux. Qui partent. Ben. Je pense qu'il y a, de plus en plus de monde qui ne part pas chaque année en vacances et beaucoup de Portugais.
Mais justement, on sait qu'ils partent. Il faut avoir les moyens, d'une part. Mm. Quand on va aller, ceux qui étaient en première ligne là, pendant la Covid, justement, ils habitent en grande banlieue. Mm. Avec ces problèmes de transport, etc., etc., il y a un certain nombre de choses à Paris qui ne pourront plus marcher. Hein. Les restaurants, les cafés, même les commerces, tout un tas de trucs. Sont ces petites mains, entre guillemets, qui ont des salaires de misère. Ça va être la galère pour eux.
Ah non, ça va être totalement la galère, et on l'a vu. Enfin, le marqueur de la période des Covid, enfin, les indicateurs, ils auraient dû être pris en compte pour cette période. Il y a toute la bande de la Seine qui va être bloqué et impossible de circuler en voiture. Et effectivement, les premières mains, les petites mains, les premières de cordée, ils vont être encore une fois les plus pénalisés. Et je pense que c'est pas non plus eux qui seront le plus récompensés.
Je vais... Tiens, j'ai une bonne question parmi d'autres à poser, Madame Valérie Pécresse. Mais enfin, merci. Donc, je rappelle, vous êtes délégué central CGT à la RATP et membre également Génération. 30 secondes. Le 9, il faut voter parce que voter, c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir, non?
Tout à fait. C'est un droit, un devoir. Je pense qu'en plus, quand on a la double nationalité comme j'ai et comme beaucoup de copains, de compatriotes en Île-de-France, on a fêté les 50 ans de la révolution des œillets. On a été, je pense, menottés pendant cette période. Pour moi, il est plus qu'important que le 9 juin y aller. Moi, j'ai pris le parti pris de soutenir une liste de gauche. Donc, principalement celle de, enfin, uniquement celle de Manon Moury pour quelques raisons. Entre autres, sa posture sur le prix de l'électricité. Donc, voilà. Mais j'engage tout le monde à aller le dimanche voter massivement pour montrer que, voilà, la France, les compatriotes français et européens, parce que quand on est européen, on peut voter aux élections européennes en France, montrer que notre voix compte. Qu'un vote à compte. Il me semble qu'il y avait une campagne comme ça d'une association.
Qu'un vote à non compte.
Isso mesmo.
Don Martins, muito obrigado e até uma próxima. Et courage pour les JO, pour vous et pour nous. Oui. Et nous, justement, on reviendra après 13h. We'll be right back. Segunda hora de Passagem Nível neste domingo, dia 2 de junho. Estamos na vossa companhia até às 14 horas. Emissão, lembro, com redifusão da noite da terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. E, pois bem, foi dado, aliás, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas passou aqui por Paris recentemente e falou-se muito de subsídios, protocolos de acordo e por aí fora. Uma coisa certa é que a lista dos subsídios atribuídos no concurso, porque é um concurso, 2024 da Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, DGACCCP, sim, sim, só há dois Cs. Pois bem, já foi publicado mais de 1 milhão de euros e um quarto desta soma vem para França. Como foi feita a distribuição, é outra questão. Vamos tentar dar uma volta à França nas próximas semanas, mas para já tardamos em duas situações diferentes. Como, aliás, já estava no anúncio da emissão, destes subsídios, entre satisfação relativa e decepção. A decepção vamos encontrar início de sensivelmente 10 minutos, mas para já eu poderia falar de satisfação relativa. Hilda Nunes, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Artur Silva.
Ora, relembro a provedora da Santa Casa de Misericórdia de Paris, no que diz respeito aos subsídios da Santa Casa, o valor total, 40.100 euros. Permanências sociais, 11.700. Acompanhar e visitar pessoas isoladas, 13.800. Festa solidária, marcha corrida, 4.250 euros. 30º aniversário da Santa Casa, com efeito para já, parabéns, 30 anos, que vão ser festejados, mas só por volta do mês de novembro já lá iremos, 6.900 euros. Natal de Solidariedade e Esperança, 3.450 euros. Hilda Nunes, falei há bocado, decepção para uns, satisfação relativa para a Santa Casa?
Exatamente, satisfação relativa, porque o subsídio aumentou, mas os pedidos também aumentaram de uma maneira incrível. Portanto, é evidente que este ano obtivemos verbas superiores às que estávamos acostumados a receber, mas, seja como for, não vão chegar. Como todos sabem, a Misericórdia não tem outra maneira de poder ajudar as pessoas, não são os subsídios ou os donativos. E como os donativos não são muitos, e os subsídios, pronto, este ano estou claro, só enquanto provedora e enquanto Hilda Nunes mesmo, também estou muito satisfeita com o aumento das quantias que recebemos.
Ora, eu vou buscar acompanhar e visitar pessoas isoladas. Tem piada, bom, podíamos juntar também o Natal de Solidariedade e de Esperança, no total faz sensivelmente à volta de 17 mil euros. É o caso para perguntar as campanhas para recolher fundos de bens alimentares e de higiene, se formos pôr cifrões, agora é o símbolo do euro, mas enfim, atrás do valor daquilo que é recolhido, daquilo que é oferecido, significa aquilo que vem da parte do governo português, é uma minoria, quer dizer, não digo que é ridículo, mas enfim, quase.
Não, ridículo não, não. Ridículo. Não empregaria essa palavra, mas é evidente que não é suficiente, como referi há pouco. Digamos que a recolha de géneros alimentícios, que terá lugar novamente, teve lugar em novembro, em dezembro passado, começou em novembro, inclusive, e depois na época da Páscoa, e vai novamente ser realizado a partir de finais de novembro e todo o mês de dezembro. É verdade que é mais fácil, por vezes, dar 1 quilo de massa ou 1 quilo de arroz do que dinheiro, porque as pessoas por vezes também se perguntam o que é que fazem com esse dinheiro. Eu posso deixar aqui, e como tenho sempre dito, a Misericórdia não tem outros recursos a não ser os donativos que as pessoas fazem. Claro, se dão produtos alimentares, damos diretamente às pessoas, mas as pessoas por vezes não precisam só daqueles produtos que temos hábito de dar. E como eu costumo também referir, há muitas mães, e cada vez mais, mães sós, com vários filhos pequenos, e que precisam de leite, de fraldas, mesmo de roupas, produtos de higiene, etc. Portanto, nós necessitamos de donativos. As verbas recebidas pela DGACCP, o que mais uma vez agradeço pelo aumento, mas ficam muito aquém das necessidades. E se não houver donativos em numerário durante o ano, nós não conseguimos responder aos pedidos. Porque, pronto, agora falei de mães sós com filhos, mas há muitos outros casos. Há casos de pessoas que precisam, que vêm à França por múltiplas razões e que precisam de dormir num hotel para não dormir na rua e que fazem apelo ao consulado e o consulado faz apelo à Santa Casa, entre outros. Pronto, não vou aqui multiplicar, mas é evidente que os donativos que as pessoas poderiam dar são, podem declarar depois o recibo que a Santa Casa lhes enviará, declarar nos impostos. Estamos agora quase no fim do período de declaração de impostos na região parisiense, e esse montante pode ser reduzido de quase de 70%. Quer dizer que a pessoa do bolso só daria 30%. Só daria, muitas vezes, já é bastante para as pessoas, eu compreendo perfeitamente. Mas pronto, a misericórdia não tem outros... outros a fazer, a não ser ajudar as pessoas que precisam.
Sim, e relativamente ao género de alimentícios e produtos de higiene, muitas vezes quando chega à época das férias já não há nada no armazém entre aspas, e um grande abraço ao movimento, à associação em Puto, precisamente. Ora, há a referir também, depois vamos falar dos próximos meses, ainda que as férias estejam à porta, e sabemos que há muitas pessoas isoladas, pessoas da terceira idade, agora diz velhos diretamente, somos velhos, somos assim e assumimos perfeitamente, temos a vantagem relativamente aos jovens, é que temos uma vida. Mas enfim, é para dizer que há toda uma série de pessoas mesmo que estão formadas com formas muito, muito, muito baixas, mas há uma pergunta também que eu faço, quer dizer, Portugal tem responsabilidades, deve assumir responsabilidades, mas as pessoas que vivem aqui, trabalham aqui, descontaram aqui, as autoridades francesas também têm obrigações.
Ora, exatamente. Quero referir que a Santa Casa nunca se substitui nem às autoridades, nem aos serviços portugueses, nem aos franceses. A Santa Casa é apenas uma passarela que permite às pessoas que não sabem a que porta bater, que não sabem como lá chegar e que não sabem preencher dossiers, que precisam de contactos, etc., que precisam também de ser ouvidas, dirigem-se à Santa Casa. Portanto, a Santa Casa está em plena colaboração com os serviços sociais, etc., portugueses, segurança social, para as reformas, etc., e franceses, constantemente. Precisamente, já no ano passado continuamos a tentar multiplicar as parcerias com estruturas portuguesas e continuamos aqui também, estando sempre em contacto com a Segurança Social, com a Caixa das Pensões de Reforma, etc., mas com outras estruturas igualmente aqui em França. E estamos a multiplicá-las cada vez mais.
Ilda Nunes, temos tempo para falar daqui até lá, porque para já há que atravessar este verão com os Jogos Olímpicos, não vai ser fácil, um certo de pessoas, mesmo para irem ter com vocês à permanência, porque vão haver muitas restrições para circular, que o QR Code, se queremos ir fazer uma permanência social à Santa Casa, não sei como é que vai ser, mas enfim, veremos. Entretanto, há duas datas, já há duas datas que estão marcadas. Começaria pela corrida, dia 6 de outubro. Confirma-se?
Confirma-se perfeitamente. Não é a primeira data, mas confirma-se perfeitamente a corrida no dia 6 de outubro. E no ano passado inovámos. Portanto, propusemos jogos para crianças, as crianças divertiram-se imenso, foi todo o dia, foi um dia francamente muito preenchido e este ano ainda vamos acrescentar mais jogos, acrescentar mais atividades para os nossos jovens, adolescentes e mesmo mais graúdos. E claro, continua a ser possível correr, mas também andar. A marcha pode ser feita por pais com crianças pequeninas, aos quais dão a mão, por pessoas mais idosas. Qualquer pessoa pode participar neste evento. Que seja a correr para ganhar, que seja a marcha, tudo é possível na corrida da Santa Casa da Misericórdia de Paris, que vai ter lugar, portanto, como eu acabo de dizer, no dia 6 de outubro, e sempre no mesmo sítio, na Cour Rolland, em Juillan-Josas.
É evidente, sem esquecer todo o convívio social que permite precisamente a corrida. Rapidamente, e teremos a ocasião, depois das férias, de voltar ao assunto, Hilda Nunes, 30 anos, há 30 anos que foi criada a Santa Casa da Misericórdia, e penso que o aniversário vai ser dignamente festejado no dia 11 de novembro. Não, eu avanço esta data?
Não.
Não é dia 11, não?
Não, é dia 15 de junho já. Os 30 anos, o jantar de celebração dos 30 anos vai ter lugar no dia 15 de junho, no Senado. Vamos contar com a representação do Sr. Primeiro-Ministro, recentemente eleito, e com o Secretário de Estado das Comunidades, que esteve há pouco tempo cá, mas que vem, que também tinha previsto vir, e virá representar também o Sr. Primeiro-Ministro, assim como muitas outras personalidades portuguesas e francesas. Há pouquinho falei das nossas colaborações com instituições francesas. Estará também presente o presidente da Cruz Vermelha Francesa, que é de origem portuguesa, inclusive, e muitas outras pessoas. Não vou agora aqui referir todas. Mas, claro que a embaixada, o consulado, etc., estarão representados, mas não só.
Ok, bom, Hilda Nunes, obrigadíssimo, e de qualquer maneira sabem que vocês podem sempre contar com a Rádio Alfa para ser solidária com aqueles que necessitam da nossa solidariedade.
Muito obrigada,
obrigado, Hilda Nunes.
Simplesmente falou do 11 de novembro, será o dia da solidariedade em França da Santa Casa da Misericórdia de Paris.
Teremos
pronto,
ocasião,
fica aqui, terá bem lugar. Ok. Obrigada.
Muito obrigada. Deixamos Paris agora. Paris, que teve uma satisfação relativa no que diz respeito precisamente aos subsídios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, mas há deceção. Deceção essa, vamos até nisso. Salomé, querido, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos.
Ora, muito obrigado. Ora, lembro, a Rádio Alfa pode ser ouvida em Nice, Paca, Mónica e isso tudo, graças ao DAB+, é como que diz, a Rádio Digital. Ora, Salomé, querido, a Associação pour le Logement et l'Insertion des Familles en Détresse, criada em 2013, rapidamente e em alguns tópicos, quais são as vossas funções? Porque ainda recentemente realizaram uma jornada para ajudar todos os portugueses que estavam aqui, ou que estão aí dessa zona de Nice, para tratarem da papelada para irem para a reforma, não foi?
Foi, foi. Rapidamente, donc, a Associação à L'Aide foi criada em 2017 por mim e por Marísia Varela. Eu trabalhando no social durante toda a minha vida aqui em França, tenho visto a nossa comunidade com muitas dificuldades, nomeadamente para tudo o que é administrativo, seja a CAF, a CPAM, que é a Segurança Social Francesa, ou os direitos das pessoas que são deficientes. Então eu fui vendo que havia muitas dificuldades e então criei esta associação, que fazemos só ajudas a nível administrativo. Fizemos um encontro com o ADIDO de Paris, da Segurança Social Portuguesa, porque vimos que havia muitas dificuldades a nível da reforma portuguesa. Porque aqui, sendo a idade da reforma, por certas pessoas, nomeadamente aquelas que estão que são deficientes, são aos 62 anos, as pessoas rapidamente metem também a reforma lá em Portugal, se trabalharam em Portugal. Então, vimos que havia essa dificuldade, então fizemos, através do seu cônsul, o Sr. Álvaro Esteves, então ele veio com o ADIDO, a Nice, para explicar à comunidade como é que funciona a reforma em Portugal.
Aqui em Paris já tinha sido organizada a mesma coisa e simplificou, ajudou muita gente a resolver o problema, porque tínhamos a Caixa Nacional de Pensões de um lado, aqui as caixas todas e mais algumas, são pelo menos 3 ou 4. Ora, voltando à Associação ALED, ALED, A-L-A-I-D, 14 voluntários, locais que são alugados, é necessário dinheiro, evidentemente, para pagar as rendas da casa. Ora, vocês este ano fizeram um pedido de subsídio, salvo erro da minha parte, de 5 mil euros. Quanto é que vocês receberam?
Zero.
Zero. Sem explicação nenhuma.
A explicação, eles têm sempre uma explicação. Porque, como sabe, eu desde o princípio, bom, o primeiro ano que eu fiz foi em 2020, foi aceito. Há uma cadência que são feitas, temos uma cadência por 3 anos, então nesses 3 anos eu tive só 2 anos a subvenção. Pedi 5 mil euros em 2020, houve 1.400 e tal, acho, e o segundo ano não tivemos nada. E o terceiro ano tivemos mais ou menos 60% do que tínhamos pedido, sempre 5 mil euros. Uhum. Ora, o que falta aqui nisto é informação. Informação e formação. Informar as associações como é que isso funciona. Porque eu tive uma formação em 2017. E as coisas vão sempre mudando, as leis mudam. E então há muitas associações que querem fazer o pedido, mas que não sabem como fazer. Eu já é de hábito, já tenho feito 3 anos, então sei como fazer e como não fazer. Mas tem sempre uma coisa no meio que diz que não, que este papel não foi ou este papel não foi. Eu verifico as coisas, vi que para mim não faltava nada. E sobretudo, dão-nos... Se há alguma coisa que não vai bem, porque o subsídio é pedido no mês de dezembro, máximo dia 31 de dezembro, eles têm ao menos 2 ou 3 meses para verificar os dossiês e saber se está bom ou não está. Então, nesses 3 meses, eles têm tempo de nos dizer, de vir voltar para nós e dizer, olha, falta isto para a gente avançar. Mas esperam sempre o último momento para nos dizer que não vai. Eu este ano... Deram-me 10 dias para mandar o papel que disseram que faltava. Eu mandei a tempo e a horas. E foi recusado na mesma.
Não, é verdade que o Movimento da Cidade queixa-se dos formulários, porque há páginas e páginas a preencher. É incrível. Mas no meio disso tudo, como eu disse, vocês ajudam quase diariamente as pessoas. Têm 2 locais para receber, precisamente, aqueles que... vão, ligam para vocês, querem vos ver, a pedido que querem, bom, precisam de alguma coisa. Por exemplo, quando foi o incêndio em Graça, a vossa associação ajudou as pessoas vítimas desse incêndio, não foi?
Foi. Financeiramente, tinha uma família que, inclusive, infelizmente, o filho saltou pela janela quando houve o incêndio, e ele pensava que a mãe também ia saltar pela janela, e então ela não conseguiu e essa senhora morreu, e a família não tinha dinheiro nenhum para fazer o enterro dessa senhora dignamente. E então a Associação Aled, com os poucos meios que nós temos, ajudamos a família a fazer todos os papéis administrativos, porque tudo queimou lá dentro, com a ajuda dos cônsulos, que seja de Cabo Verde ou de Portugal, foram mesmo muito, ajudaram-nos muito nisso, mas financeiramente a Associação Aled deu uma grande ajuda para poder fazer um enterro digno a essas pessoas. Olha lá, isso é uma parte também que tem que compreender, que o dinheiro que nós recebemos das subvenções servem também para isso, para ajudar a comunidade. E não é só isso. Há pessoas que precisam de cestas básicas. Pessoas que não têm que comer. Nós fazemos cestas básicas para essas pessoas. Então é útil. É útil. Não é um desperdício de fazer uma doação, dar subsídio à Associação Aled, às associações que ajudam as pessoas. Nós estamos no terreno e vemos as coisas que se passam, porque muita gente tem vergonha de ir bater na porta de uma associação para dizer, olha, eu não tenho nada para comer.
Sim, isso é bom. Aqui na região presidencial e não só, também a mesma situação, a precariedade cada vez é maior e nem todos os portugueses são de sucesso. Eu ponho isto entre aspas, evidentemente, Salomeu querido, e é de propósito, não é? De maneira que, evidentemente, que todos os apoios são necessários. Vocês também trabalham em colaboração com a Fundação ABPR, e isso é importante. Sim. Porque eles têm um grande trabalho no capítulo do alojamento e tentar E sabemos que aqui um salário mínimo, com salário mínimo, não se aluga nem um quarto, pelo menos aqui na região parisiense. Salomé, querido, muito obrigado. Ora, lembro que a vossa associação tem uma cota anual de 20 euros para os nossos ouvintes e, sobretudo, aqueles que nos ouvem aí em Pacá, Mónaco, Pacá, Nice e por aí afora, talvez um endereço internet para as pessoas que queiram precisamente fazerem parte da vossa associação. E são 20 euros anuais, de maneira que dividindo isso por 365, bom, está longe de ser um cêntimo por dia. Para os nossos ouvintes aí da zona, mas não só, que queiram precisamente aderir à vossa associação, são 20 euros anuais. A inscrição deve ser feita a partir de quê? De um site internet ou como é que é?
Não, a nossa associação, como ela é pobrezinha e pequenina, então que as pessoas mais parte do tempo vêm ter connosco ou nos chamam e nós mandamos o NIB do banco, fazem a transferência, ou então vêm ter connosco. Nós temos pessoas que vêm de Fréjus, que vêm de Cogolin, pessoas que me chamam de Tours, e voilà, pessoas que precisam de ajuda e que estão longe de Nice, mas que através de tudo o que é digitalizado hoje, podemos dar ajuda. E as pessoas ficamos gratos também, agradecemos a comunidade portuguesa que vê o nosso trabalho e que tenta nos ajudar do máximo que podem.
Bom, nós estamos aqui para isso, podem contar connosco igualmente. Se vão ao Facebook, ALAID, ALAID, vocês podem se tornar membros e ver e acompanhar precisamente as atividades da associação. Salomé, querido, muito obrigado, é um primeiro contacto, mas conte connosco quando houver coisas para dizer, para falar, para protestar ou para regozijar-se, não hesite, se fizer favor.
Ok, obrigado. Obrigado a todos.
Muito obrigado. Nós vamos continuar início desta feita, precisamente com o seu cônsul honorário do Portugal em Nice, Joaquim Pires. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Ora, para já, peço-lhe desculpa a si e à comunidade portuguesa, porque a Rádio Alfa deve dar mais explicações como a maneira de que nos possam escutar e por aí afora. Terá que ser através do DAB+, é como que diz a Rádio Digital. Mas, enfim, já dei o recado a quem de direito, Joaquim Pires. Ora, precisamente, falemos um pouco da comunidade portuguesa na região PACA. É uma região enorme, para começar.
Sim, é uma região que vai da nossa região. O meu consulado Nice, tem os dois departamentos, que é o Alto Marítimo e o VAR, e temos também, isso é a regra, mas temos também um pessoal ali por cima dos Altos de Alto Provence. Uhum. Depois está o consulado de Marselha Geral, também, que faz os outros departamentos, de Bourgeron, e depois para Nima, e tudo, e o Gare, os outros todos. Mas não, é preciso saber que de Montão a Marselha temos mais ou menos, vamos dizer, 250 quilômetros, entre 220 e 250.
Uhum. Ora, isso significa também que a nível da comunidade, bom, há realidades diferentes de uma cidade para a outra, porque, bom, começamos talvez por uma coisa, há um grande tecido empresarial português aí na Nice e à volta, não há?
Mas há vários, há. Eu, por exemplo, vivo no Golfo de Saint-Tropez. No Golfo de Saint-Tropez temos aqui muitos portugueses na zona de Saint-Tropez, porque é uma zona que se desloca muito na parte das construções, mas também por exemplo, temos cá muitos chineses, temos cá há várias formas de português, que tem restaurantes e coisas assim. A zona de Bossolei, é que 5.500 portugueses em Bossolei, porque estão à volta da Noé do Mónaco. Vamos dizer que a onde está negócios, a onde está dinheiro, há sempre uma boa comunidade. E é o caso aqui no sul de França. Temos o Mónaco, temos o Bossolei, temos Cannes, temos Nice, temos ali uma comunidade também muito importante. Temos aqui Saint-Tropez, que também é uma zona onde está muito negócio, não é? Então há falta de mão de obra. A nossa comunidade é uma comunidade, como todos sabemos, de trabalho e que tinha, menos a menos, até não é? Mas, são pessoas trabalhadoras, então são zonas que puxa por esta marca. Eu temos também uma zona ali em Toulon, não é? Mas já não é bem igual, Toulon já é mais prédios e mais. Já não é bem igual. E depois temos Marselha. Marselha, bom, é evidente, é a segunda vida, a segunda terra deste país. Há uma grande comunidade também, mas que não é bem a mesma.
João Guimpeiro falou em estantes de profissões, na medida em que sabemos que há boas formações em Portugal, e precisamente o certo número de técnicos que não só, por exemplo, aqui na região parisiense e perto da rádio, um certo número de hospitais, temos dezenas de enfermeiras portuguesas. Será que vocês aí, precisamente nessas profissões, bom, já que exigem uma grande formação, vocês sentiram uma vaga de jovens recentemente formados que foram até aí à procura de trabalho e melhores condições de vida, melhores salários ou não?
Sim, é evidente, mas não nos enfermeiros. Muitos mesmo, muito pessoal, mas mais quiné. Quiné é enorme e dentistas. Temos aqui muita malta nova, jovens que vieram de Portugal quando o país teve dificuldade há uns anos. É mais dentistas e muitos quinés. Quinés, mas é enorme. A porcentagem, quando estamos no consulado e vemos a malta que querem vir a votar, quando vêm, passam pelo consulado para votar, vemos mesmo que esta malta nova que veio de Portugal para ganhar melhor a vida, mas também, no momento onde não havia trabalho em Portugal, é mais quinés. Quinés e dentista, mas os mais todos é quinés. Enfermeiros, para ser franco, não vi muitos.
Não, aliás, era como antigamente na imigração, não é? Vinha um, depois vinham membros da família, depois vinham os amigos e provavelmente, quer dizer, por exemplo, a nível dos dentistas e dos quinés, quer dizer, foi sensivelmente a mesma coisa, uma espécie de rede, não é?
É, mas direi que não é bem igual, porque antigamente, como você estava a dizer, vinha um e depois vinha a família. Agora não, agora eu acho que é mais a malta nova. São mais os amigos, mandam vir os amigos, não a família. É mais os amigos, um quiné vem, manda vir o amigo, vem vir o amigo. É mais essa parte, não é muita família. Quer dizer, aqueles que estão casados, pois trazem a esposa, até não é? Mas não é mais do que isso.
Ora, precisamente esse pessoal novo que vem com formações já superiores e com profissões que têm um certo prestígio, muitos deles têm crianças. Como é que se passa aí a nível do ensino? Como é que está o ensino da língua portuguesa aí em Nice e na região, se aconselha?
Aqui na região, vou falar dos dois departamentos que estou, eu sou consul honorário, na região do Soleil, e de Nice, a portuguesa está muito bem, como é dizer, está na escola, tem português, que é raro, que não era o meu caso quando eu era miúdo, não havia. Agora nós tentamos, e os vários embaixadores que vieram cá, aqui no sul de França, a fazer as visitas, fizeram um trabalho extraordinário com os presidentes de Câmara, que fez em Bolsonaro, que fez em Nice, escolas com português, em Bossolei, então não se fala. Não, eu acho que já teve muito pior nos anos passados. A língua portuguesa é importante para o nosso país, para a nossa comunidade e acho também para os nossos dirigentes. É preciso continuar a fazer esse trabalho. Eu acho que havia dire, por exemplo, os meus filhos não puderam fazer porque não havia. Aqui nesta região do Var, porque é uma região mais, como é que é dizer, não é uma região de vila, de prédios, é uma região mais de casas, assim,
individuais.
Por um lado, individuais, já não é bem a concentração que há. E nisso, que nisso é uma metrópole muito grande e a região do Mónico igual.
Não esquecer também que a língua portuguesa é um trunfo profissional. Muitas empresas francesas andam à procura de bilíngues, precisamente ao pensar em investir em Portugal, no Brasil, em Angola e por aí fora, mas enfim. Uma última pergunta, é uma forma, eu não estou a fazer provocação nenhuma, João Guimpeiro. Quando nós aqui dizemos às vezes, quem me dera de mudar Paris para o sul da França, porque vocês dizem, está sempre um tempo excelente, o mar Mediterrâneo, podemos ir tomar banho, mas porque vocês tiveram problemas, as coisas nem são sempre cor de rosa ainda com o das Europas, não?
Não, na verdade, se me perguntarem a mim, se eu pudesse ir a viver em Paris, digo logo que não posso, porque viver sempre a ver a mar e eu preciso ver o mar. Uma coisa é certa, é que vocês têm a vantagem em Paris que não temos aqui no sul. Vocês, por exemplo, quando tem um ministro, vão para Paris. Nós vamos a dizer que aqui no sul, enquanto não houve a Câmara do Comércio, de onde eu fiz, não é? Aqui no sul, quando pediu o Vinhas Pereira, fizemos aqui a delegação sul, há 15 anos aqui ninguém se conhecia. Foi um trabalho que foi feito com que comecei com o Vinhas Pereira, com os meus amigos, com o Jorge Mendes, advogado em em Marselha, fizemos aqui uma comunidade com em dia já associações, por exemplo, de como é que é dizer, por exemplo, Les Élus, por dizer, Les Élus portugueses, luso-descendantes de França, fizeram associações, conhecem, falam, e viemos a saber que havia adjuntos na Câmara de Canos luso-descendantes, portugueses, viemos a saber que aqui na nossa região do VAR há vários, temos advogados que assuntam bem luso-descendantes, e isso foi esse trabalho que fizemos aqui na região, para se encontrarem vários restaurantes, muito em Bolsorei. Ninguém sabia que em Bolsorei havia 5.500 portugueses, que é 37% das pessoas são portuguesas. Ninguém sabia. Então, quando eu fui como consul honorário, primeiro como presidente da Câmara da Delegação Sul a Bolsorei, já havia 23 anos, não tinha vindo àquela terra um representante do Estado português. Nesses 15 anos que lá vieram, vamos dizer, alguns de 30, que é um trabalho fantástico para a nossa comunidade, a ver, vocês têm também muito mais vantagem em Paris que nós não temos aqui. Vocês veem o Presidente da República, que nós nunca ouvemos. Esta região sul, é preciso saber que a região sul é enorme. Nesses dois departamentos devemos andar agora 50 mil portugueses, mas a realidade da região sul é 200 mil. Porque a nossa região sul é uma região... Eu estou a falar de 150 quilómetros, mas se nós formos até Montpellier, se formos até Nîmes, essa região toda, e se montamos por baixo de Lyon, há portugueses em todo lado também. E não estou a falar do meu amigo Fartaria, do consulado de Clermont-Ferrand, onde também tem muitos portugueses no centro de França. Estamos um bocadinho esquecidos.
Nós não nos esquecemos. Aliás, relativamente a nisso, falou de uma advogada, estou a pensar agora na Catarina, que igualmente e com o festival da semana do cinema lusófono nisso, Bolsolet e por aí afora, bom, de maneira em Graça também, bom, de maneira que é algo que acompanhamos e agora cada vez mais, tanto mais que bom, a rádio também pode ser ouvida aí e como eu disse, já dei o recado a quem de direito, porque bom, vai haver um importante acontecimento aí no mês de setembro, de maneira que esperamos bem nessa altura estar aí na vossa companhia com o estúdio e tudo, e bom, teremos tempo de preparar isso, Joaquim Pires.
Esta advogada, como vários advogados, como várias profissões, a nossa comunidade não são só homens das obras e limpeza, isto acabou. Os nossos pais vieram e nós fazemos estudos, os nossos filhos, de hoje em dia há doutores, há em medicina, há advogados, há professores, e era preciso fazer esse trabalho que fizemos há 15 anos. Esta advogada, eu não a conhecia, está a ver? Ninguém se conhecia. A partir de hoje, há associações, se conhecem, está a ver? Vocês vieram, Rádio Alves, já existe há quanto tempo, Rádio Alves?
Desde 1987.
Então imagina, olha, quando, o ano que nasceu o meu filho, em 37, há quanto tempo que era para o Sul? Quanto tempo? Há 2 anos?
Sensivelmente, pois.
Está a ver. Pelo menos esqueceram. Mas isto é normal. Agora estamos a fazer um trabalho porque houve esta malta aqui que eu tentei fazer e agora os novos estão a fazer tão bem, a malta mais nova, fazer que a nossa comunidade seja mais, que se veja mais. Este evento que fazemos no mês de setembro, normalmente é feito sempre no mês de maio, e este ano não o fizemos, que é o Gala da Câmara do Comércio, porque tivemos mesmo um trabalho agora com os 50 anos da Revolução em Portugal, e agora ao dia 6 estamos em Marselha com os embaixadores, com várias pessoas, com deputados, isto e aquilo, todas as semanas temos uma coisa aqui, umas reuniões, uns eventos com as câmaras também locais. Não dava tempo para fazer no mês de maio. Isso vamos a fazer em setembro. E acho que é muito bem que venham e que expliquem bem como é que sou o rádio aqui no Sul. Porque quando me pergunto, eu não sei dizer. E quando o outro dia, tive um dos seus colegas que me explicou. E eu fui tentar e não consegui. E não sou mais estúpido, é complicado. E tem de fazer ou um e-mailzinho para nós. E nós depois fizemos para os membros da Câmara. E assim faz bola. Hein? E todos vão poder... Que é por aí termos aqui o Rádio Alfa, que é um rádio fantástico, porque nós, se não, só temos o Luz Apresse e o Luz Jornal.
Maneira que, bom, vamos tratar desse jogo, episódio obrigadíssimo, lembro, Cónsul Honorário de Portugal em Nice, bom vão, porque eu digo bom vão porque quem me dera poder estar também na Gia Beira-Mar, isto falta muito, mas enfim, Joaquim Pires, muito obrigado e até breve.
Muito obrigado, sou eu, sempre até a breve. Um abraço para todos, obrigado. Adeus, para a comunidade. Rádio Alfa.
Et on est presque en train de terminer par le repas. Le repas, ça sera pour plus tard, mais enfin. Bon, passage à niveau ce dimanche 2 juin. Sylvie da Silva, bonjour.
Bonjour, Arthur Silva.
Alors, cette fois-ci, Porto. Porto, recette et lieu emblématique. Mango édition, mais et un travail aussi extraordinaire, parce qu'il faut le dire, photographie de Emery Chemin, stylisme Pauline Dubois, et illustration de couverture Amandine de Launay. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, ce qu'il y a dedans. Alors, bon, vu l'heure, Sylvie da Silva, on va commencer par les desserts.
Je vois la petite touche,
voilà, oui.
Alors... la petite dent sucrée de Arthur Silva.
Alors, je suis pas le seul. Manuel qui est de l'autre côté de la vitre, lui aussi. Bon, alors cette fois-ci, bon, c'est pas le dernier dont on avait parlé. C'était vous avez fait un périple du nord au sud du Portugal, et là on avait vraiment, bon, on a vu les plats typiques de chaque région, la porcelaine, tout un tas de choses. Alors là, vous êtes resté entre guillemets à Porto. Alors, Porto, bon, pour les gens du Nord, c'est la ville la plus belle. Et mais à Porto, j'ai l'impression que vous avez fait des découvertes. Déjà, qu'est-ce que vous avez découvert à Porto?
Alors, en fait, ce que j'ai découvert à Porto, c'est que... Alors, moi, je suis lisboète, donc forcément, Porto passe en second plan. Mais justement, elle est assez intrigante parce que cette ville a une forte personnalité. Elle a toujours été... elle a toujours beaucoup compté dans le cœur des Portugais. Et aussi des Français, puisque la moitié des Portugais qui vivent en France viennent de cette région et de cette ville. Donc il y a un lien très très fort, très marqué. Et cette ville plus intimiste, qu'il faut un peu découvrir, plutôt mille visages, mais qui ne se révèle pas comme ça, qui avait quand même cette réputation de ville laborieuse, le travail, les travailleurs, travailleuses. D'un coup, elle s'est métamorphosée. Et c'est vrai qu'il y a deux villes au Portugal, il y a Lisbonne, il y a Porto, les deux capitales, je dirais, du pays. Les gens ont beaucoup, beaucoup visité Lisbonne et aujourd'hui, ils sont en train de se pencher sur cette ville qui a un patrimoine et un potentiel absolument dingue entre la mer et la vallée du Douro, qui est un patrimoine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, elle va attirer beaucoup de monde. Elle m'a attiré moi aussi. Et ce que j'aime avant tout dans cette ville, c'est sa sincérité, c'est sa générosité, parce que ça, on le retrouve dans l'assiette, mais aussi dans l'hospitalité des gens. C'est les gens du Nord. L'accueil est absolument incroyable.
Extraordinaire. Alors, il y a la cuisine portugaise, mais quelque chose que j'adore, moi, la cuisine des petits couches.
Alors, la cuisine des petits couches. Alors, ça, c'est intéressant, parce que, par exemple, alors, en Espagne, on appelait ça les tapas. Au Portugal, c'est vraiment ouche petiche, c'est la cuisine de comptoir. C'est-à-dire qu'on va effectivement dans un café, une cafétéria, voilà, un salon de thé. On peut manger salé, sucré, au comptoir, comme ça, un peu sur le pouce. Au Portugal, on ne mange pas la street food, tout ça, c'est pas ça. On aime les lieux de vie sociale, etc. Donc, on reste au comptoir ou à table pour manger, même si on mange assez vite. Donc, la street food, pour l'instant, c'est pas le sujet hein, du tout. Et alors, à Porto, on mange des choses très différentes en cuisine de petits. On a des petites boules de bacalhau, bolas de bacalhau, qui sont pas du tout de la même forme qu'à Lisbonne. On va trouver au caldo verde, qui est vraiment la soupe populaire, donc ce chou émincé avec du chorizo. Ça, c'est vraiment la soupe des balles populaires. Hein. Si les Portugais m'entendent, ils savent très bien de quoi on parle. Et puis, il y a aussi pas mal de sandwichs chauds. Alors là, moi, j'ai craqué complètement pour Sainte de Pernil, de la Casa Guedes. Bon, je fais de la publicité parce qu'en fait, c'est une institution. Et que quand on va à Casa Guedes, eh bien, on se retrouve face à un des deux frères hein, qui, depuis 40 ans, prépare les mêmes sandwichs avec autant d'amour. C'est absolument incroyable. c'est une viande, c'est le jambon, en fait, qui est rôti. On y met un peu de jus dans un pain bien chaud, une petite tranche de fromage à mantegade, et le tour est joué. Et ça coûte 2,50 €. Hein. Qui dit mieux?
Mais Sylvie, justement, alors, ces bonnes adresses, il y en a un certain nombre dans votre livre. Sache que c'est également des commerces. Par exemple, de conserve, ces choses extraordinaires, bon, on pourrait continuer comme ça. Mais jusqu'à quand, Kazaguetsch, par exemple, peut garder sa, ce qu'elle est, sa, quelque chose de véritable, de profond, oui, de savoureux? Parce que c'est en danger, Kazaguetsch et d'autres sont en danger, non?
Oui, bien sûr. En fait, tous les établissements, les institutions font de la résistance malgré tout, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie gentrification des villes, donc on normalise tout ça, on va manger effectivement des choses qui ne sont pas du tout portugaises, mais la Kazaguetsch, il y a la maison mère, il y a un deuxième établissement, un troisième établissement. Ils ont tout à fait le talent pour recevoir à la fois les habitués du quartier qui viennent tous les midis et qui évitent les touristes, la horde de touristes qui arrive plus tard. Mmh. Et donc, ils accueillent aussi les étrangers sans rien changer. Et en fait, c'est ça leur force, c'est que à aucun moment ils vont changer le prix, ils vont changer la qualité, ils vont changer la quantité. Et ces gens-là, bah, ils ont tout compris parce qu'ils savent très bien qu'ils détiennent un trésor, c'est que c'est eux l'âme de Porto, c'est rien d'autre. Et en fait, plus ça va aller et plus les gens vont rechercher la qualité, mais aussi la simplicité. Et ce qui fait que cette ville, elle est authentique. Donc, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter des maisons comme Kazaguetsch, etc., ou les autres institutions comme le Café Guarani, Brésilier et tout ça.
Mmh. Et d'ailleurs, bon, il y a ce nombre de choses, bon, et à propos de conserverie, Pignais et compagnie, bon, c'est déjà le décor. Bon, déjà, justement, la déventure, ça nous fait rêver, bon, etc., etc. Bon, quand on parle de cuisine, la cuisine de la terre, la cuisine de la mer, mais en même temps, bon, je ne sais pas, bon, il y a quelque chose qui rythme. Est-ce que ça rythme aussi du point de vue gastronomique, la fête de Saint-Jean, la fête de Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des trucs à part?
Que la fête de Saint-Jean, bah, la fête de Saint-Jean, de toute façon, c'est la fête incontournable de
Porto,
de
oui.
Porto, hein, comme la fête de Saint-Antoine à Lisbonne, etc. Donc là, ben, c'est effectivement les sardines grillées, le abro au caldeira, etc. Puis beaucoup de d'événements qui se passent le long du cage de Ribeira. Et ça, c'est des choses qui restent très traditionnelles. En fait, tous les gens de la région vont venir pour fêter la Saint-Jean, qui est le patron de la ville de Porto.
Tout à fait. Bon, il y a la fête à Lisbonne. Bon, à Lisbonne, t'aimes au Saint-Antoine. Mais enfin, alors, il y a quelque chose. Ben, en 30 secondes, la bouillabaisse à Porto, ça a à voir quelque chose avec la bouillabaisse de Marseille?
Oh, pas tout à fait. C'est à Candelade. C'est vraiment. Alors, moi, j'adore ce plat parce que je trouve que c'est très savoureux et que c'est aussi très facile à faire. Hein, on met une couche de pommes de terre, on pose les poissons surtout délicatement, on les retourne pas, etc. Tout ça, toutes les saveurs se mélangent. C'est pas tout à fait la bouillabaisse marseillaise, mais c'est l'amour de poisson rassemblé dans une marmite. Hein, donc là-dessus, on est d'accord. Hein.
Tout simplement. Et je me souviens quand j'étais gamin, mon père allait au Mercado de Ribeira le dimanche matin. Acheter plein de poissons. Ça, c'était lui qui s'en occupait, hein, personne d'autre, attention.
c'est sérieux.
Sylvie Da Silva, je vous remercie. Donc, Porto, recette et lieu emblématique, Mango édition des Super Photos, et de quoi aussi de faire lire recette, c'est bien expliqué, sans oublier qu'à la fin, il y a un carnet d'adresses à Porto. Bon, il faut en parler, mais pas trop, il faut sauvegarder tous ces lieux-là.
Les très jolis lieux, y aller quand même parce qu'ils en ont besoin, mais vraiment respecter la ville et les habitants.
Voilà,
merci.
Super.
Merci beaucoup.
Sylvie, à bientôt, parce que si vous êtes un truc préparé, quelque chose. Bon, ça sera pas par rapport au Portugal, mais c'est une bonne occasion de parler de gastronomie, surtout à cette heure-ci. J'ai faim.
Bon. Absolument. Merci beaucoup.
Merci, bon Sylvie Da Silva. Bon, merci.
Adieu.
E nós estamos a terminar a emissão. Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. E já agora, bom, vamos terminar com Joana Amendoeira. Porquê? Porque ela, mas não só, igualmente com Hélder Moutinho e Miguel Ramos, vão estar numa soirée En fama, nem plus, nem mais nem menos, trata-se de um jantar-concerto que vai ter lugar em Aubervilliers, na quinta-feira, dia 6, no Teatro Equestre Zangaro. Nem mais nem menos, encontra-se no número 176, Avenue Jean Jaurès, em Aubervilliers, o metro mais próximo, Fort d'Aubervilliers, fado, e igualmente gastronomia. Vai ser um jantar à portuguesa, ao que parece, mas enfim, bom, falemos de outra coisa, senão vai ser difícil até chegar a casa. Muito obrigado, espero bem aqui estar de regresso na próxima semana, domingo, dia 9, mas para já, Joana Amendoeira, todas as horas são breves.
Todas as horas são breves, todos os dias são horas, todas as horas são breves, todos os dias são horas, todo o amor que me deves. Vejo as sombras do desejo que tenho por te encontrar. Vejo as sombras do desejo que tenho por te encontrar. Tarde calma, onde nasce a primavera, na brisa da tarde calma, onde nasce a primavera. Sou do monte, sou da serra.